Pour moi, quand même, la musique est l'art suprême dans la mesure où il est immatériel. Donc, il est indestructible. Vous pouvez, hélas, détruire la Pietà de Michel-Ange. Vous pouvez lancer un jet d'acide sur un Caravage. Mais vous pouvez envoyer un jet d'acide sur une partition de sonate de Beethoven. Ça lui fera, si je puis dire, ni chaud ni froid, tant que quelqu'un l'a dans la tête. Donc, il y a dans cette immatérialité, cette abstraction de la musique, quelque chose de plus fort, qui est vraiment indestructible. Beaucoup que la musique classique est élitiste et je serais tout à fait d'accord de dire oui, mais pas dans le sens où elle s'adresse à une classe sociale privilégiée, parce qu'elle s'adresse à l'élite de chacun, à sa meilleure part.
Le grand atelier
à laquelle on a droit
sur France Inter.
Elle parle bien du plaisir qu'elle éprouvait enfant à se jeter dans l'eau froide de l'océan Atlantique, elle, la Bretonne, fille et sœur des écrivains Henri et Yann Kefelek. Elle exprime aussi avec clarté ce qui se produit en elle lors d'un concert. Quelque chose a lieu de l'ordre de la communion avec l'âme du musicien qu'elle interprète au piano et l'âme du public. Car cette pianiste inspirée au jeu clair, délicat et vivant, cette artiste curieuse de tous les répertoires, Mozart, Beethoven, Ravel, Satie, Dutilleux, est quelqu'un du verbe. Elle aime échanger, accompagner, convaincre, jouer est son activité première, mais cela implique une rencontre. Lors d'un récital, on l'entend souvent expliquer, situer un morceau avant de l'interpréter, et dans la vie, elle parle volontiers de ce qui la nourrit, elle et son jeu, la musique, la littérature, la poésie, la philo. Si quelque chose l'irrite, elle l'exprime aussi. Parlez-lui des réseaux sociaux, elle va s'énerver contre le désir frénétique d'avoir des followers qu'elle rebaptise les faux lovers, les faux amants. Elle va sourire si j'ajoute qu'elle est bavarde, parce qu'elle sait que ce n'est pas un reproche. Bavarder, c'est communiquer, c'est aller vers l'autre, apprendre et s'enrichir. Bonjour Anne Kefelek, effectivement vous souriez.
Oui, je souris, mais alors je m'élève tout de suite contre cette évocation des réseaux sociaux, parce que je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de compte tweet, etc. Je ne les pratique pas, mais je ne suis pas d'ailleurs en train d'émettre un jugement moral. Bien entendu, il peut y avoir des façons plus ou moins justifiées de les utiliser, je ne le nie pas. Mais followers, et comme likers, enfin toute cette espèce de jargon de quand même de bas étage. Je suis un dinosaure, vous savez, dans mon... L'éducation que j'ai reçue dans notre famille, c'était vraiment des livres et un piano. Les valeurs de l'esprit étaient premières pour mes parents.
Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio.
Non, mais peu à peu, nous avons acquis certains appareils, c'est-à-dire la radio tout de même est arrivée, mais j'avais 12 ans. Donc, vous voyez, entre-temps, déjà, on a pris beaucoup l'habitude d'avoir recours aux livres comme nourriture première. Et puis, bien sûr, à travers la musique aussi. Et puis, à travers ce que mes parents eux-mêmes nous transmettaient au cours des repas. Je me souviens de repas merveilleux où mon père, par exemple, tout à coup, vous sortez des extraits entiers de l'art poétique de Boileau. Et ma mère aussi était capable de pondre une extraordinaire dissertation pour Camille rencontre Horace aux enfers, raconter la scène. Moi, je séchais complètement. Et elle avait pondu un devoir tellement fantastique que le professeur, rendant les copies, il a dit, la dernière copie, je l'ai gardée pour la fin, elle est tellement magnifique, c'est celle d'Anne Kefelek, je vais vous la lire. Et il savait très bien, bien sûr, que c'était pas moi qui avais rédigé ce texte. Alors il m'infligeait, et c'était intelligent de sa part, mais face à toute la classe qui me regardait médusée, il lisait, en mettant le ton, ma mère avait composé, ça va amuser Macha, faudrait que je te donne le texte d'ailleurs.
Macha Makayev, ici présente, oui.
Voilà, un vrai dialogue de théâtre, et le professeur mettait le ton. À un moment, Camille traitait Horace de crâne de piaf, la classe me regardait. Comment est-ce qu'elle a trouvé ça, crâne de piaf? Et bref, à la fin du cours, j'ai failli lui dire, monsieur, ça n'est pas mon père, c'est ma mère. Et je n'ai pas pu lui dire.
Ah oui, c'est pas votre père Henri Kefelek.
C'était pas mon père Henri Kefelek.
Je le disais, Anne Kefelek, vous êtes quelqu'un qui aime l'échange, qui aime parler, qui aime rencontrer. On pense à vous devant votre piano, aux heures que vous avez passées, aux années que vous avez passées devant le clavier et que vous continuez de passer. Et puis aussi devant le public, vous tenez à cette notion de rencontre et de partage. Et c'est un peu l'idée aussi du grand atelier, un invité à carte blanche pour nous faire découvrir les personnes qu'il souhaite inviter dans cette émission. Vous l'avez cité, il y a Macha Makayev, metteuse en scène, costumière, scénographe, ancienne comédienne, patronne de compagnie, directrice du théâtre de La Criée. Qu'est-ce que je peux ajouter? La Criée à Marseille? Rien.
On peut ajouter aussi poète, fantaisiste, rêveuse, riche d'humanité. Mes invités sont tous riches d'humanité.
Et le monsieur en face de vous avec une cravate?
Alors, ce monsieur, il m'accompagne, il ne le sait pas, mais il accompagne beaucoup de personnes, évidemment. Il stimule l'esprit de beaucoup, beaucoup d'auditeurs, notamment.
Alors, c'est un producteur de France Culture.
De lecteurs. Alors, lui qui adore lire des citations.
Je vais dire son nom, si vous le permettez.
Monsieur, oui, c'est tout à fait.
Alain Finkielkraut. Bienvenue, Alain Finkielkraut.
Qui nous fait Merci. Le cadeau de sa présence. Est-ce que je peux me permettre de lire ce que j'écris dans le métro à votre propos? Je vous ai entendu dire que, oui, c'était une faute de votre part de ne pas connaître mieux la musique classique à propos donc de cette méconnaissance. Pour moi, vous êtes un mélomane fervent, potentiellement. Alors, je dis ce que j'écris. Du fait de sa sensibilité, de son humanité profonde, il est tout, sauf un intellectuel, entre guillemets, déconnecté du sensible. Et l'émotion, dans son discours, à tout moment, ne demande qu'à affleurer. Il lui tient la bride courte, mais il a du mal. Il parle avec gourmandise des mots. Il est prompt à l'admiration, à l'émerveillement. Qualité rare chez un philosophe ou un intellectuel, l'humilité partagée davantage par les scientifiques.
Bah écoutez, je ne sais pas quoi dire. Alors,
je ne le crois pas.
Suis-je un... Non, si, effectivement, je vais essayer de reprendre mes esprits.
Bah, je vous propose de reprendre vos esprits juste après avoir écouté le piano d'Anne Kefelec, si vous le voulez bien.
Et Kefelec. On parlera de musique, alors.
Oui, puis vous pourrez répondre à cet hommage qui vient d'être fait. Je voudrais qu'on écoute un extrait de votre coffret, Anne Kefelec, qui vient de paraître chez Erato. Il y a 21 disques, les disques de votre vie. Si on les écoute, eh bien, on peut rencontrer l'Anne Kefelec de tous les âges, qui a vécu mille expériences de 21 ans aux années 90.
Oui, hein, oui, 1996.
Et le premier disque était déjà formidable, je le dis sans flagornerie, c'était un Scarlatti.
Anne, vous allez jouer ce soir deux sonates de Scarlatti. Pourquoi ce choix?
Parce que j'aime beaucoup Scarlatti, je trouve que c'est une musique très très vivante et qui finalement correspond toujours beaucoup à la sensibilité actuelle. Enfin, je ne vois pas pourquoi ce serait démodé et rangé dans des placards. Je trouve que la musique dite ancienne est souvent vue comme quelque chose de figé ou soi-disant d'un peu poussiéreux. Et en fait, c'est toujours très, très vivant.
Eh bien, vous nous administrez la preuve du contraire. Il suffit de vous entendre. On va vous demander de prendre place au piano, s'il vous plaît, Anne. Et Anne Kefelec interprétera la sonate en si mineur de Scarlatti.
Thank you. Et bien voilà, nous étions dans le premier disque de ce coffret Anne Kefelec, les enregistrements complets d'Erato, et nous écoutions la sonate en si mineur de Scarlatti. Vous avez dit à propos de ce compositeur, Anne Kefelec, un jour, quel soleil !
Pourtant, là, en tout cas dans cette interprétation-là,
malgré la mélancolie,
voilà, il y a une douceur, une forme un petit peu de nostalgie malgré tout, qui n'est pas l'allégresse qui si souvent habite la musique de Scarlatti.
Mais on n'est pas non plus dans les nuages, là.
On est dans peut-être le soleil breton, c'est-à-dire avec justement un peu voilé parfois, mais qui peut être aussi éclatant.
Et plusieurs fois par jour.
Plusieurs fois par jour, naturellement.
Alain Finkielkraut, on parle de mélancolie, vous qui êtes un grand mélancolique.
Pas toujours.
Est-ce que cette musique vous parle ?
Oui, bien sûr. Et bien d'un autre côté, c'est vrai, je ne suis pas un mélomane. Anne Kefelec disait tout à l'heure que dans son enfance, il n'y avait ni radio ni télévision. Moi, mes parents ont acheté une télévision très tôt, j'avais 5 ou 6 ans, et il n'y avait pas d'électrophone. Et donc, j'ai vécu dans une atmosphère sans musique. Et c'est d'autant plus triste que mon père, lorsqu'il a vécu son enfance et sa jeunesse en Pologne, adorait la musique. Il allait toujours à l'opéra. Il allait voir des représentations de Carmen 20, 30, 40, 50 fois. Avec ses amis, me racontait-il, il était au poulailler. Et il connaissait tellement tout que lui et ses amis tournaient le dos à la mise en scène pour se concentrer sur la musique. Mais voilà, c'est un des malheurs de l'exil. Cette habitude qu'il avait contactée dans un certain milieu à Varsovie, il ne l'a pas reprise en France. Donc, il m'a fait vivre sans musique. Et c'est vrai, la musique s'enseigne beaucoup plus à la maison qu'à l'école. Heureusement pour moi, j'ai une femme, je ne sais pas si elle est mélomane, mais elle aime la musique. Donc, je me rattrape un peu. Et je constate que la musique qui me parle immédiatement, celle qui m'émeut, c'est la musique un peu lancinante. Je pense par exemple aux Métamorphoses pour piano de Phil Glass. Et c'est aussi la musique classique qui entre en contact avec la musique populaire. Et je pense là au tango de Stravinsky. Et puis il y a aussi la musique religieuse, celle qui, à l'incroyant même, donne accès à la transcendance. Et là, je pense à la Passion selon saint Matthieu de Bach. Et je pense aussi, puisqu'en effet, Anne Kefelec a raison, j'aime les citations, à cette merveilleuse phrase de Suran, « S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est Dieu ». Et aussi, une musique que j'aimerais voir jouer sur ma tombe, à mon enterrement, ben ça ne se fera pas, parce que c'est pas comme ça que les choses se passent, notamment dans les enterrements juifs, mais c'est une musique que j'ai entendue pour la première fois, vous voyez, je suis pas mélomane, dans Barry Lyndon, le trio opus 100, je crois, de Schubert, qui me met absolument les larmes aux yeux.
Pour quelqu'un qui n'est pas mélomane, c'est pas mal, Anne Kefelec.
Mais voilà, mais j'ai révisé. Hein, ça. Je savais non, où je mettais les pieds.
La difficulté, et moi-même je suis tiraillée, je dois dire, entre l'amour des mots et des notes.
Souvent vous dites ça.
Oui, mais c'est vrai, parce que justement, de par mon éducation, la musique et la littérature, d'une certaine façon, elles se disputaient le terrain. Mais vous dites bien, en effet, que potentiellement, vous auriez été un mélomane ultra fervent et certainement un interprète aussi. Mais vous savez écouter, puisqu'à travers ce que vous venez de dire, on sent bien qu'en effet, vous êtes profondément touché et que la capacité qu'a la musique de suspendre le temps alors qu'elle n'est que temps elle-même, et elle nous permet d'échapper à la temporalité des calendriers, des horloges. Un penseur que j'aime infiniment, je ne sais pas si vous, il fait partie de vos trésors intimes aussi, Jean Kelevitch. Pour lui, la musique était vraiment pour lui aussi l'art suprême, et il parle de cette temporalité enchantée de la musique, quelle qu'elle soit, en fait, religieuse ou pas.
Oh ben, il est avec nous, Vladimir Jankélévitch. On va l'écouter, puis je vous laisse répondre à Alain Finkielkraut. On est en février 1974 et il répond à Jacques Chancel.
J'imagine que lorsque vous assistez à un concert, vous devez être un peu jaloux du pianiste qui joue sur la scène.
Oh non, je l'admire.
Oui, mais vous ne voudriez pas un peu être à sa place ?
Ah oui, sûrement.
Ah oui, sûrement.
C'est la vie que j'aurais ambitionné le plus, mais je ne peux pas l'amener. J'ai aucune qualité pour ça. Il faut le sang-froid. Et puis, il ne faut pas avoir peur pour sa mémoire. Il faut le courage, un véritable courage. Ouais. Il faut d'abord être jeune. À partir d'un certain âge, c'est plus la peine d'essayer. On peut toujours jouer, faire de la musique d'ensemble, jouer à quatre mains, jouer à deux pianos, jouer tout seul pour ses fauteuils. Les fauteuils sont un très bon public d'ailleurs. Ils sont toujours contents. C'est très utile la musique. Quand vous écoutez de la musique, au concert aussi d'ailleurs, vous pensez plus à rien d'autre, à votre carrière, à quelqu'un qui vous porte ombrage, à la note du percepteur à payer, à tous les soucis sordides et mesquins de la vie quotidienne. C'est l'oubli complet.
Et vous n'avez jamais séparé la musique du plaisir?
Moi, je ne la sépare pas, mais je sais que c'est très mal vu maintenant, et qu'on me traiterait d'hédoniste, un terme dont se servent les musicologues, ou les compositeurs, les grands compositeurs même. Je ne sais pas s'ils savent que c'est un terme de morale et de moraliste. Alors, dans ce cas-là, je cite toujours Debussy, parce que c'est Debussy qui a répété « La musique est faite pour faire plaisir ».
Vladimir Jankélévitch, comment réagissez-vous à cette archive des années 70 à la Finkielkraut?
Quand j'écoute Jankélévitch, je suis triste de l'avoir manqué. J'ai vraiment manqué quelque chose. J'ajoute, pour être tout à fait honnête, j'ai beaucoup de mal en concert à rester focused, concentré. Mon attention dérive. Je me mets malgré moi à penser à autre chose. C'est pourquoi je le dis plutôt comme une carence, que j'aime la musique lancinante. Parce que celle-là, si vous voulez, elle me parle immédiatement. Je pourrais aussi parler de ce moment de la symphonie numéro 2 de Mahler que un metteur en scène que vous devez admirer comme moi, Masha Makeyev, Tadeusz Kantor, a utilisé dans La danse des morts. Là, tout d'un coup, je suis emporté et je sais que mon attention ne dérivera pas.
Anne Kepelec.
Je vais vous rassurer parce que, à vrai dire, ça m'arrive souvent de me dire dans la salle, le public qui est entre guillemets écoute, forcément, il va partir dans toutes sortes de directions. Quand on écoute, est-ce qu'on doit être obligatoirement fixé sur note après note, ne pas lâcher le discours? C'est pas sûr. Il y a aussi une espèce de voyage dans l'imaginaire qui se produit à l'écoute d'une œuvre musicale. Et il faut accepter ça. Il faut s'abandonner. Il ne faut pas essayer de disséquer. J'aimerais bien, d'ailleurs, comme Macha nous dit ça, parce que, en effet, au théâtre, on suit l'action, on suit l'histoire, et il y a quelque chose à quoi l'imaginaire, sur lequel il s'ancre d'une façon familière, proche, puisque nous employons les mots dans la vie, alors que la musique est un langage différent et elle s'adresse à autre chose en nous.
Macha Makeyev.
Au théâtre, il y a l'inflexion des voix, donc il y a de toute façon, au-delà du sens et à l'intérieur du sens, déjà une musicalité. On écoute le sens au théâtre, on le reçoit, c'est quelque chose de physique, d'organique. Et quand on détache la musicalité des mots et le sens des mots, quelque chose se produit qui est desséchant. Donc sur l'attention portée à la musique, moi, par exemple, l'irruption tout à l'heure de Scarlatti, c'est comme si c'est un privilège inouï de la musique, de l'immédiateté. C'est-à-dire, c'est comme si on avait oublié qu'on avait soif et qu'on vous apporte un verre d'eau. Vous le buvez, vous dites, mais oui, mais c'est fou ce que j'avais soif. Comment j'ai pu tenir jusqu'à maintenant? Et la musique, c'est ça. C'est quelque chose, c'est un lieu d'imprégnation qui arrive immédiatement. Moi, je crois beaucoup à la concentration, effectivement, dans la musique, parce que la part d'imaginaire, elle arrive que si on a un peu cette discipline aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup la double écoute de certains, surtout dans la musique contemporaine. J'aime beaucoup la double écoute parce que la première fois, on reçoit émotionnellement et la pensée se mêle à tout ça. Et la deuxième fois, on est apaisé et on reçoit vraiment la musique, peut-être à 80%, 90%. Voilà, on a besoin d'être initié aussi.
Alain Finkielkraut.
Alors, je comprends mieux pourquoi j'ai ces difficultés d'attention quand j'écoute Masha Makeyev, parce que précisément, la poésie ou le théâtre, c'est l'alliance du son et du sens. J'ai toujours besoin du sens, ou beaucoup besoin du sens. Et quand le son est seul et le sens n'est pas là, j'ai du mal. Donc, ce qui fait que je pourrais être un très bon public pour l'opéra. Oui. Puisqu'il y a des deux. Et je l'ai été à un moment donné dans ma vie, mais là je dois dire que les mises en scène d'opéra actuelles, dans leur majorité, sont désespérantes. En guise de sens, on vous met à peu près des uniformes nazis partout.
Mmh. Je reconnais bien Alain Finkielkraut de réplique.
Ou bien j'ai vu Didon est né à Aix, avec un prologue de Mélisse de Kerangal, et tout d'un coup, ce devenait un opéra pour les migrants. C'est une cause qu'on peut discuter, qui a sa noblesse. Mais quel rapport avec Didon est né? Donc, je regrette, si vous voulez, l'attitude des metteurs en scène qui ne se mettent plus au service de l'œuvre, mais qui mettent l'œuvre au service de leur idéologie.
On va laisser
ça, je trouve ça très regrettable.
S'exprimer une metteuse en scène contemporaine qui n'hésite pas à faire un Molière Trissotin ou les femmes savantes dans les années 60-70, dans un univers à la Jacques Tati. Il va s'indigner, Alain Finkielkraut.
Non, j'ai pas vu cette pièce et je parlais de l'opéra. Je peux entrer en polémique avec machin Makeyev.
Vous en avez monté des opéras avec Jérôme Deschamps.
Je ne vais pas parler de moi. Par exemple, Tcherniakov qui monte Don Giovanni comme un complot familial avec quelque chose d'un Don Giovanni extrêmement fatigué et qu'on va laisser mourir comme ça sans bouger parce qu'il y a un système économique aussi et familial et qu'on lui a menti. Et il y a des metteurs en scène qui sont de grands poètes et qui peuvent, eux, décaler les choses parce qu'ils sont visionnaires, parce qu'ils nous les font voir et entendre différemment. Et Tcherniakov, quand il monte Don Giovanni, il fait que même le mythe de Don Juan est un tout petit peu décalé, et j'en suis extrêmement reconnaissante, outre le plaisir que j'ai eu, le plaisir de l'intelligence de l'œuvre aussi existe.
Mais moi, il me semble que ça n'est pas contre le décalage que M. Finkielkraut s'élève, c'est plutôt
les pensifs.
La laideur aussi, revendiquée comme une espèce de façon transgressive de penser. Et chez Macha, il y a ce sens de la beauté toujours. Et en effet, il y a de très grands metteurs en scène, Strehler, je me souviens, Les Noces de Figaro. Bon, et là, ce n'est pas une histoire de jouer forcément en costume d'époque, bien sûr.
Non.
Oui, c'est pas la peine de toujours représenter en costume les pièces d'époque. Et en même temps, Strehler le faisait. Les Noces de Figaro de Strehler, que j'ai vu aussi, c'était en costume. La Villégiature, c'était en costume. Et il avait un souci de la beauté, un souci de l'exactitude, absolument extraordinaire. Et nous lui étions reconnaissants, justement, de changer d'époque. Nous retrouver toujours face à nous-mêmes avec, ou alors on peut, effectivement, je crois qu'on peut faire jouer l'école des femmes en la transposant aujourd'hui, mais quand j'ai vu les photos d'Arnolf et d'Agnès l'un et l'autre sur un vélo d'appartement, c'est Braunschweig, je crois, et j'ai pas vu la pièce, donc peut-être que c'est réussi, mais en même temps j'étais triste, j'étais atterré. Donc c'est un peu dommage qu'on veuille nous faire la leçon à travers Molière et qu'on nous prive de cette chance merveilleuse qui est la poésie même, la chance du dépaysement.
Acha Makeyev.
Mais la poésie, c'est le décalage aussi. La poésie, c'est pas collé à l'idée que l'on se ferait d'une époque. Et c'est terrible, l'idée du costume d'époque. C'est forcément déjà une allusion. C'est forcément déjà des erreurs. Et le théâtre et l'art a besoin de se nourrir de ces erreurs, de cette fantaisie, de ce décalage. Après, vous savez, c'est... La part plastique du théâtre est une chose essentielle aussi. Et elle en passe aussi par les objets d'aujourd'hui. Et ils se mettent à avoir une puissance émotionnelle telle qu'on va au-delà des époques. C'est pas une condition, l'époque. C'est pas une condition, c'est une proposition.
Alain Finkielkraut sourit.
Non, oui, parce que c'est un très beau plaidoyer, donc je n'ai rien à dire.
On va écouter un peu de musique, si vous le voulez bien, puis on va continuer la conversation ensemble. Vous avez enregistré, non pas un disque, mais vous avez enregistré, vous, quelque chose au piano à 12 ans, Anne Kefelek?
C'était plutôt, je pense, ma mère qui avait le souhait d'avoir une petite trace du jeu de sa fille à 12 ans, mais c'était pour nous usage interne, et je me souviens que la maison disque s'appelait Pirale, l'écho du monde. Un seul exemplaire.
Ah, vous l'avez toujours.
Diffusion restreinte, bien sûr.
Ah oui, c'est bien ça. Et on va écouter une américaine de Los Angeles, Billie Eilish, qui est auteure, compositrice, interprète depuis qu'elle a 11 ans. Et aujourd'hui, c'est une adulte et elle chante Bad Guy.
Sleeping, you're on your Le Grand Atelier, Vincent Josse sur France Inter.
Tu diras ce que tu voudras, Fredo, mais dans cet Allegro de Beethoven, eh ben, on sent encore vachement l'influence de Mozart.
Faut dire que c'est la période charnière de l'évolution beethovenienne.
Je suis d'accord avec toi, Fredo, mais avoue que c'est plus sensible dans l'Allegro que dans l'Adagio, hein. Ça en filigrane, quoi.
À part le fait, c'est sa deuxième manière à Beethoven. Dans le premier thème, il fait un large exposé. Alors forcément, dans l'Allegro Manon Troppo, quand le premier violon et le violoncelle, ils attaquent à l'unisson, eh ben, on sent déjà que ça va s'épanouir en contrepoint.
C'est vrai ce que tu dis, Fredo.
Tu sais, comme le disait Delacroix, dans le Beethoven des Quatuors, on respire déjà la mélancolie qui trahit un feu intérieur. Il a pas fini de faire du slalom avec son scotter, celui-là.
Oh, dis donc, les deux roues, faut se les goinfrer.
Oh, c'est pas vrai. Tiens, écoute le pianissimo, dit, si c'est enlevé.
Jean-Yann et Paul Mercier, qui sont deux routiers qui parlent mieux que personne de musique classique, Macha Makeyev, sont un peu les ancêtres des Deschiens. Ce sketch-là, ça annonce François Morel et ses amis.
Oui, j'ai des cousins. Hein. Jean-Yann, j'aimais infiniment sa représentation de la méchanceté.
Jean-Yann en routier mélomane, ça vous faisait rire, Alain Finkielkraut?
Bah oui, comme tout le monde. Il y avait le contraste merveilleux entre la vulgarité apparente de la voix et l'extrême acuité des commentaires. Et c'est vrai, c'est des choses qui me manquent. Moi, je sais pas très bien distinguer le contrepoint. On m'a expliqué ce que c'était que la fugue et j'oublie tout de suite. Mais je suis un peu triste à cet égard parce que je me souviens au lycée Henri IV, on avait des cours de musique. Mais on chahutait le professeur, on le chahutait atrocement.
Même vous?
Ben oui, enfin tout le monde. C'est le conformisme de l'enfance et de l'adolescence. Il n'y a pas âge plus conformiste que la jeunesse. Ça, il faut quand même le savoir. Et d'ailleurs, ça devrait nous éviter de nous raconter que c'est les jeunes qui vont sauver la planète parce que ils manifestent à 15 ans. Ils sont les buvards de l'esprit du temps et ils nous expliquent que voilà, il faut qu'on fasse quelque chose.
À quel âge n'est-on pas conformiste? Alors, y a-t-il un âge?
On en sort. On peut en sortir. Mais ça a été un grand moment, mai 68. Un grand moment lyrique. Mais c'était un moment de conformisme lyrique. On faisait tous la même chose. On s'imitait les uns les autres. On ne prêtait plus allégeance à l'autorité des adultes. Mais pourtant, tomber dans la tyrannie des pairs, P-A-I-R-S. Et puis à un moment, bon, on sort, on arrive peu à peu à penser par soi-même. C'est un exercice difficile, mais ça me rappelle cette phrase extraordinaire de Philippe Muret, la jeunesse est un naufrage. Faut pas exagérer, mais il faut y réfléchir. Il va évidemment trop loin, mais la pensée doit exagérer pour
être
audible.
Heureusement que Fabrice Luchini n'est pas dans ce studio, il abonderait, Macha Maguieff, vous qui avez été 68 arde.
Mais moi aussi.
Et moi aussi.
Je parle de ce que je connais. Je parle de ce que j'ai vécu.
Et vous regrettez ce que vous avez fait, vos manifs, etc.
Non, je le regrette pas. Ça a été aussi un bon moment. Mais il est très difficile de se démarquer des autres quand on est enfant, adolescent,
c'est marrant,
et même jeune.
Ça me rappelle une phrase de vous, Alain Finkielkraut. Je vous cite au micro du Grand Atelier. Vous avez dit un jour, il faut oser devenir soi-même.
Ben oui. Et c'est très difficile, parce que tout d'un coup, on s'arrache à la gangue de sa tribu générationnelle. Et en général, c'est rendu possible par des rencontres. Des rencontres de livres, justement, ils nous aident à cela, parce qu'ils sont plus vieux que nous, ou de gens qui sont plus vieux que nous. Et ces rencontres, pour moi, ont été absolument déterminantes. J'ai jamais pensé par moi-même de moi-même. J'ai pensé par moi-même grâce à ces rencontres, et je leur suis très reconnaissant.
Anne Kefelec?
Grâce aux autres aussi, donc. Les autres, ce n'est pas que l'enfer.
Non. Non, les autres, c'est pas que l'enfer, sauf quand c'est les autres comme groupe, comme masse.
Non, je dirais le peut-être groupe, l'enfer, le, c'est le groupe. Le groupe, c'est terrible. Le groupe, c'est terrible. Voilà. Mais moi, j'ai le pas été mes 68. Enfin, d'abord, j'ai pas fait mes 68 parce que, à cause du phénomène du groupe, et peut-être aussi parce que mes fleurs de l'époque, un peu plus âgées que moi, qui faisaient mes 68, étaient des révolutionnaires. Et ça me faisait bien rire parce qu'ils partaient au sport d'hiver, entre deux révolutions, et que nous, dans notre famille, le mot révolution, on savait ce qu'il comportait, ce qu'il contenait.
Famille à la fois russe et italienne. Hein.
Oui, l'exil russe, c'était la révolution, c'était la guerre civile. Donc on en avait quelques échos dans nos propres vies, comme ça, on avait hérité de ça. Donc quand ils faisaient la révolution, je vous dis, entre deux sessions de sport d'hiver, je les ai jamais vraiment pris au sérieux, ils étaient charmants. Hein.
Anne Kefelec, 68 ans alors?
Oui, mais alors, là, il faut mettre... Alors là, c'est la musicienne qui parle, il faut mettre un bémol.
Terminer vos études?
Oui, alors, il y avait un petit peu au conservatoire, il y avait des mouvements, dont certains d'ailleurs allaient dans le bon sens, parce qu'il est vrai qu'avant 68, par exemple, les morceaux imposés pour le prix, ce qu'on appelait le prix de conservatoire, qui était donc l'aboutissement de la récompense suprême marquant la fin des études, il y avait deux sections, morceaux imposés pour les filles et morceaux imposés pour les garçons, comme pour les toilettes. Certaines œuvres étant considérées comme trop difficile pour les femmes. Et donc là, il faut reconnaître qu'il fallait que ça bouge. Et quelqu'un, cette merveilleuse musicienne comme Martha Argerich, qui est arrivée à ce moment-là, je lui ai dit un jour, vous savez, vous avez vraiment fait avancer la cause des femmes dans le domaine musical à cette époque, car vous jouiez bien mieux qu'un paquet d'hommes. Familièrement, il n'y avait pas photo. Et on n'allait pas dire à Martha Argerich, quand on l'entendait jouer à la toccata de Prokofiev, ou tout ce qu'elle touche. Il y avait une telle virtuosité, une telle électricité physique qui n'était pas ni féminine ni masculine, qui était celle d'un phénomène extraordinairement doué. Mais là, c'est vrai qu'après 68, pour le coup, maintenant, on n'y a pas des répertoires pour les filles et pour les garçons.
Anne-Catherine, on va aller sur votre lieu de travail, devant votre piano. Vous m'avez autorisé à venir dans votre atelier. Ça se passe au fond d'une cour, dans une maison au volet rose. On trouve votre piano, vos partitions, Mozart ou Beethoven.
Alors ici, j'ai un Yamaha, et celui-là, il y avait même un dispositif silent. Vous voyez, si je fais ça, je peux enfoncer les doigts et vous entendez. Alors, soi-disant, c'est silencieux, mais en fait, il claque des dents, évidemment. Le pianiste peut être absolument honni et voué aux gémonies par le voisinage, parce qu'il n'y a rien de plus rasoir, il faut reconnaître, que d'entendre répéter indéfiniment les passages difficiles et puis lentement et puis dans tous les sens torturé. Donc très souvent, enfin, bien des pianistes connaissent le coup fatal du toc 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 sur le mur.
C'est terrible, ça.
Comprendre.
C'est drôle parce que vous êtes assis sur votre tabouret de piano et vous avez déjà le dos bien droit de la concertiste.
Ah oui, il paraît que je me tiens bien, on m'a dit ça. Oui.
Ça résonne comment, la notion d'atelier chez Anne Kefelec?
Je pensais en fait à l'atelier aussi, l'atelier du piano dans les gares. Et ça, souvent, j'ai joué sur le piano dans les gares.
Ah, vous installez et vous jouez?
Oui, je connais les pianos de la gare Saint-Lazare, la gare de Lyon, la gare du Nord.
Qu'est-ce que vous jouez quand vous êtes là-bas?
Plus ou moins bon. J'ai joué Mozart, j'ai joué du Bach, j'ai joué Beethoven. C'est quelque chose que j'aime beaucoup comme expérience. Alors, certains pianos sont quand même, souffrent un peu beaucoup, disons. Mais tout de même, à la gare de Lyon, il est très jouable, le piano de la gare de Lyon. Et alors, la difficulté, c'est qu'en fait, ils sont pratiquement tout le temps à occuper, ces pianos. Et ce qui aussi me réjouit beaucoup, parce que je trouve que tout à coup, ce n'est pas de la consommation. Ce piano-là, qui est totalement vulnérable, exposé à tous, ce piano n'est pas tagué, n'est pas vandalisé. Ce piano, il est épargné. Et il y a, à la base, dans les individus, le besoin d'abord d'une expression personnelle, et puis justement d'une démarche qui n'est pas marchande, c'est gratuit, ça n'est pas un fond sonore, c'est de la vie.
Qu'est-ce qui se passe quand Anne Kefelec joue dans une gare? Ça me fascine.
Ben écoutez, il y a quand même peu à peu des gens qui s'arrêtent et puis qui viennent après, et puis on échange et on parle. Alors ce qui est très charmant, c'est qu'ils s'interrogent quand même, ils se demandent. Mais est-ce que c'est votre métier? Ils ont un petit doute quand même. Alors, je finis par le dire quand même, mais ça permet de je dirais pas désacraliser, parce que je trouve qu'il y a quelque chose, en effet, une dimension relativement sacrée dans le moment du concert, puisque c'est un moment où on fait silence et on doit se recueillir. Il y a souvent, pour les interprètes, la sensation que cette musique-là, elle est mise dans une sorte de niche, un peu à part. Il y a une considération un peu comme si c'était des gardiens de musée. Et donc, quand on est dans la gare et qu'on joue là et qu'on voit les gens et qu'ils viennent vous dire « Ah, c'est beau », tout simplement comme ça. « Ah, ça fait du bien », voilà ce qu'ils disent. Et c'est tout ce que j'ai envie d'entendre. Vous voyez, à ce moment-là, on est frères. Donc, j'ai envie de leur dire « Allez au concert, je vous assure, c'est comme ça, au concert. » Donc.
En fait, vous êtes un peu militante quand vous faites ça?
Oui, je suis militante. Je suis de plus en plus militante et... Oui, oui, absolument. En fait, je vous expose une crainte présente. Voilà, dans mon atelier.
Votre partition de Mozart.
Alors, il se trouve que là, dans quelques jours, je vais jouer un certain concert de Mozart qui s'appelle le 21e ut majeur Köchel 467, pour donner pour les spécialistes toutes les indications. Et c'est un concerto qui, d'ailleurs, doit être familier à certains auditeurs d'antan de France Inter. Vous savez, quand il y avait la nuit à minuit...
Macha Béranger,
voilà.
C'est toujours avec un grand bonheur que je viens vers vous afin d'écouter vos petites ou grandes histoires de toutes les couleurs, racontées très affectueusement au 01 45 24 7000 ainsi que par email adressé à macha.béranger@radiofrance.com. A tout de suite, vite.
Alors, ça a commencé par le deuxième mouvement de ça. Peut-être que ça s'arrêtait là. Et là, elle disait « Allô ». Et là, tout à coup, en fait, c'est tout à l'heure, je me disais, au fond, le génie, c'est totalement inanalysable. Pourquoi? Et notamment avec Mozart, ou avec des phrases, des mélodies d'une simplicité absolument inouïe, désarmante, innocente. On est touché, en effet, au cœur immédiatement, et on ne peut pas dire pourquoi. Mais il y a quand même le génie... On dit que le diable se cache dans les détails. Et je me disais que l'accompagnement, par exemple, on va faire un peu de pédagogie. C'est à quatre temps, c'est-à-dire il y a un, deux, trois, quatre, et puis un, deux, trois, quatre, un. 3, 4, etc. Bon, ça, c'est à 4 temps. Là. Donc, il y a des mesures à 4 temps. Et l'accompagnement, c'est-à-dire ce qui est en dessous, là, l'accompagnement est en triolet. C'est-à-dire que tout à coup, il y a le chiffre 3 qui s'invite au milieu des 4 temps. C'est, je vous montre ce que c'est. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Donc, il y a des triolets de croche en bas qui accompagnent ce qui sera en quelque sorte pair. L'impair accompagne le pair. Et cette espèce de palpitation un peu incertaine, je pense vraiment qu'il y a dans... Là, pour moi, une des clés de l'émotion de ce mouvement.
Moi, je ne l'écouterai plus de la même manière. Je penserai à ce cœur qui bat sur votre main gauche. Je peux me permettre de dire qu'il y a au moins 50 ans que vous jouez Mozart.
Ah oui, 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 plus que ça même. Allez, assumons.
Et l'émerveillement de l'interprète que j'ai devant moi est le même qu'une jeune fille qui découvre Mozart.
Ah oui, oui, oui. Ah ben oui, c'est... Mais ça, c'est fait partie de la magie de ce métier aussi. C'est que... C'est inépuisable. Les œuvres sont, quand ce sont des œuvres comme ça de génie, c'est, on n'est jamais arrivé au bout, évidemment.
Ça ressemble à quoi une journée de travail d'Anne Kefelec?
J'aime beaucoup travailler le soir. J'aime beaucoup travailler justement quand il y a, on sait qu'il n'y a pas forcément des mails à regarder, des soucis parasites domestiques, n'importe. La nuit, le silence de la nuit est quand même différent du silence de la journée. Et puis oui, c'est vrai que ce sont des moments quand même de qualité de travail que j'aime beaucoup, que j'apprécie.
Combien d'heures devant le clavier alors?
Oh, alors voilà une question à laquelle je ne peux jamais répondre. Mmh. D'abord parce que je ne regarde pas l'heure, et puis ensuite... Parce qu'il y a heure et heure, vous pouvez être assis devant votre piano, à remuer les doigts, avec les partitions devant. En fait, vous n'êtes pas en train de travailler. Vous êtes ailleurs, vous êtes distrait, vous êtes préoccupé, ou peut-être... Parce qu'il y a un côté un peu ingrat dans ce métier aussi, il faut bien dire. Il y a des moments où il faut raboter 20 fois sur le métier, et où de travailler des passages virtuoses sera difficile. Bon, et puis on réussit 3 fois, et puis ensuite on rate 10 fois, et on se dit, mais pourtant, c'est pas normal, puisque j'y arrive une fois, je devrais pouvoir le réussir tout le temps maintenant, mais non, c'est donc c'est pour ça que dire combien d'heures je travaille par jour, c'est plutôt est-ce que je travaille bien, quelles sont les minutes qui sont productives dans ce temps-là, et probablement quelquefois je surtravaille, c'est-à-dire que il faut savoir aussi s'arrêter, ça j'ai beaucoup de mal.
Vous écrivez peu sur vos partitions?
J'écris beaucoup moins qu'avant, oui. J'écris de temps en temps, mais c'est vrai que j'aime beaucoup... À ce moment-là, j'en ai éventuellement plusieurs.
Là-bas, vous avez écrit « chanter ».
Ah oui, éclairé.
Éclairé.
Mais alors là je vous montre quelque chose, puisque je viens de jouer la dernière sonate de Beethoven, qui est vraiment un cadeau, un trésor absolu fait à l'humanité. L'opus 111, donc dernière de ces 32 sonates. Et là, j'ai écrit un petit peu Là, il y a de l'urgence. Il y a ce passage que j'ai noté glacé, mais qui est glacé au sens, c'est dans la voie lactée. On est dans la voie lactée, là, on est dans les... Bon, c'est un peu absurde de vous montrer juste cette bribe, mais pianissimo, légèrement, avec, là aussi, il y a une palpitation. Hein. De la main gauche, vous voyez, qui est aussi ce pouls là, qui est dessous. Et c'est impalpable de la musique et ce côté labyrinthique avec. Dans les. Et la fin, alors ça aussi je trouve bouleversant, ça, je suis heureuse d'en parler. Tout simplement, alors que c'est la toute dernière sonate, 32 sonates écrites entre 24 ans et 52 ans, donc son journal intime de toute une vie, toute une traversée de toutes ces épreuves qu'a connues Beethoven, absolument effroyable, notamment celle évidemment de la surdité. Il clôt ce cycle de 32 sonates par... C'est la conclusion, et bon, là on a. C'est tout à fait iconoclaste ce que je suis en train de faire. Parce que il faut avoir le parcours avant qui a précédé, mais je voulais juste montrer la toute fin, voilà, pianissimo. Et là, et d'ailleurs, je l'ai fait un peu trop fort. Là, il était bien le deuxième. Et ça se termine sur un signe qui indique le silence. Et je trouve que le silence de, qui arrive là, comme ça dans la dernière sonate de Beethoven, quand on la joue d'ailleurs, quand on joue en public, ça, qu'on a eu ce parcours avant, parce que c'est pour ça que c'est presque sacrilège d'avoir fait cette petite démonstration là. Dans la salle, il y a un temps de sidération. Il y a vraiment un temps, on est en suspendu, on n'a pas envie d'applaudir. On sent qu'on est allé loin, si vous voulez, et qu'on n'a peut-être pas envie de quitter cet univers.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Vous rendez compte, Alain Finkielkraut, vous avez eu un cours de piano pour les auditeurs du Grand Atelier, comme pour vous, là. C'est un idéal, ça.
Ah oui, c'est un idéal. Et je dois dire que ce qu'Anne Kefelec dit sur Mozart, la coprésence du père et de l'impère, Captant et Triolet, c'est absolument merveilleux. Mmh. Et j'aimerais être capable d'écouter la musique comme ça, de m'en rendre compte. Parce que c'est vrai, ça a l'air absolument formel, mais ça ajoute quelque chose à l'émotion. Et ça me manque. Il faudrait faire des émissions, mais il y en a peut-être sur France Musique. Mais
oh, oui, il y en a de merveilleux sur France Musique.
C'est ça. Accompagner la musique de ce commentaire extraordinairement éclairant.
Ça vous plairait, Anne Kefelec, d'être productrice à la radio?
J'allais dire, pas seulement sur France Musique, sur toutes les chaînes de radio, n'est-ce pas? Évidemment, à France Inter, il faudrait que la musique classique soit plus présente. Merci, Vincent.
Alain Finkielkraut, on vous salue et on écoute Satie, interprétée par Anne Kefelec. C'est aussi un de vos amis, Eric Satie, Anne Kefelec. En tout cas, il est présent sur ce disque et bien présent dans ce coffret.
Comment dire en Angleterre, j'ai une dent douce pour lui. Sweet tooth. Oui, bien entendu, sur l'île déserte, c'est pas lui que j'emporterai. Mais en revanche, cet homme, il a sa voix. Il a quelque chose qui ne peut pas s'apprendre justement dans un conservatoire ou une quelconque école. Il a trouvé sa voix VOIX. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que il a un public à lui. C'est étonnant, l'enregistrement Satie que j'avais fait chez Virgin s'est vendu à des chiffres vraiment qu'atteignent habituellement la musique de variété, donc dépassant quasiment les 200 000 exemplaires. Ah oui, oui, c'était énorme. D'ailleurs, grâce à ça, j'ai pu négocier le fait d'enregistrer l'intégrale Ravel. Après, j'étais un petit peu négociatrice, voilà. En tout cas, Satie, c'est amusant parce que quand je joue en bis, j'annonce Satie. Et il y a dans la salle, comme une espèce de soupir, de soulagement. Enfin, on va comprendre. Enfin, là, on n'a pas besoin de clé. Ça va être simple, ça va être immédiat. Il est très poète aussi, cet homme.
Masha Makeyev, elle est née quand, votre amitié avec Anne Kefelec? Parce que je vous regarde depuis tout à l'heure. Je vous écoute et je vous regarde. Et vous vous prenez les mains, vous vous faites des petites confidences aux oreilles. Il y a une complicité. Alors, faut-il dire complicité féminine entre vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il se passe quelque chose de fort, j'ai l'impression. C'est né quand?
Je pense que c'est né peut-être il y a plusieurs âmes. Je crois qu'on est des vieilles âmes, qu'on a dû se connaître avant, parce qu'on s'est reconnus, en fait. La relation à laquelle je tiens le plus, au fond, et surtout d'artiste à artiste, c'est l'admiration. Et quand j'ai entendu Anne, au clavier, à la Roque d'Anthéron, je crois que c'était la première fois. Ça a été immédiatement, oui, une admiration profonde, quelque chose qui était très aquatique et extrêmement sincère. Elle parlait à quelqu'un, il y avait une véritable adresse, il n'y avait pas une démonstration, jamais. Quelque chose nous était adressé. Donc c'est au-delà de l'ami qu'elle est devenue pour moi, mais l'artiste, elle est absolument préservée dans cette relation-là et dans ce moment-là premier.
Anne Kefelec.
Pour moi, c'est un personnage mozartien d'une certaine façon. Elle est entre Tchekhov et Mozart, c'est-à-dire avec à la fois cette force et cette vulnérabilité. Et en effet, il y a une connivence entre nous. Je me souviens d'avoir joué dans son théâtre à Marseille et jamais je n'ai été éclairée si bien. Le sens de la lumière chez Machin est incroyable. Et ce qu'elle dit par rapport au fait qu'on s'adresse, de ce qu'elle a senti que je m'adressais à quelqu'un en jouant, aussi me touche beaucoup parce que de fait, pour moi, le public n'est pas du tout une masse anonyme indifférenciée. Ce sont des individus qui me font le cadeau, le temps du concert, de leur humanité, de leur mystère, qui ne savent rien les uns des autres et finalement nous nous retrouvons dans la communion tous ensemble à travers une dimension qui nous dépasse et en même temps qui est nôtre.
On peut lire une revue qui est éditée par le Théâtre de la Criée, impulsée par vous, Macha Makeyev, et qui s'appelle Cri-Cri.
Oui, avec un rédacteur en chef qui s'appelle Hervé Castanet, qui nous aide beaucoup parce qu'il sait faire des revues. C'est pas une revue de théâtre, c'est une revue dans un théâtre où l'accompagnement des... Enfin, le compagnonnage des artistes et des intellectuels, je crois qu'on a vraiment besoin de la pensée, on a vraiment besoin d'être ensemble, de s'accompagner mutuellement, de s'écouter. Plus que jamais, il faut faire la place aux lumières, il faut faire la place à la pensée active, à la pensée positive, et pas laisser la place simplement aux obscurantismes.
Est-ce que vous avez lu cette revue, Anne Kefelec, ou pas encore ?
Pour l'instant, je n'arrête pas de déplorer le fait qu'on ne puisse pas à volonté avoir une prise élastique sur le temps. Et, car en effet, je suis entourée de piles de livres et je voudrais tellement aussi écouter plus de musique autre que moi-même. Et malheureusement, le temps imparti
dans le grand atelier, on prend son temps. On a encore une heure à passer avec vous, Anne Kefelec. Donc je vous dis à tout de suite. Et je remercie Macha Makeyev de sa venue.
Merci beaucoup.
Merci aussi. On essaye de dire avec des mots ce que suggère la musique. Or, c'est totalement possible, parce que moi, je suis convaincue que si la musique existe, c'est parce que justement, les mots ne peuvent pas tout dire de nous, que la musique va infiniment plus loin. Elle connaît les mouvements les plus secrets de notre âme. Et j'aime beaucoup la parole de Mauriac aussi, qui dit « Je ne connais pas la musique, c'est la musique qui me connaît mieux que moi-même ».
Deuxième heure en compagnie d'Anne Kefelec, pianiste, deux nouveaux invités autour de vous, deux scientifiques et deux amateurs d'art et de musique, je pense. Catherine Dolto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, vous êtes spécialiste des enfants, des bébés et de leurs parents. J'aime bien dire les deux à la fois. Et puis à vos côtés, il y a Yves Quéret, qui est physicien. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Amateur de musique, auteur de Un coquillage au creux de l'oreille, dans lequel vous parlez de science, d'éducation et de musique, entre autres. Bienvenue à tous les deux. Anne Kefelec, vous pourriez répéter chez vous, comme on l'a entendu tout à l'heure dans votre première heure du Grand Atelier, et vous êtes avec nous. Est-ce que ça vous arrive de culpabiliser de ne pas être devant le piano ?
Oh non, je ne dirais pas culpabiliser. En revanche, que ça me manque, oui. Ah, c'est dommage que là, je sois obligée de sacrifier telle et telle plage de temps pour X raisons, alors que je pourrais être en effet en train d'être en main à main avec Beethoven ou Schubert. Mais non, ce n'est pas de l'ordre de la moralisation.
On va écouter Juliette Armanet parce qu'elle fait partie des jeunes chanteuses que vous appréciez, paraît-il.
Il se trouve que je l'ai rencontrée grâce à France Inter. Je l'avais croisée ici lors d'une autre émission. On s'était retrouvés dans le studio avec la présence d'un piano et nous avions l'une et l'autre opéré, si je puis ainsi dire. J'avais joué une pièce et puis elle ensuite avait aussi, en s'accompagnant au piano, chanté une chanson. Et à la suite de cette croisée de nos routes, elle m'avait envoyé un mail disant que la musique faisait partie de sa vie, dans son éducation, dans sa famille, que ses parents aussi avaient une formation, connaissaient vraiment bien le piano. Et cette spontanéité, oui, m'avait touchée parce que tellement souvent, on a l'impression que ou les acteurs ou les chanteurs dits de variété, la musique classique, c'est tellement autre chose et c'est un peu, c'est pas ringard, mais pas loin, et ce serait dépassé, et ça ne traverse pas leur monde, en tout cas. Alors, je lui garde une petite tendresse aussi pour cette raison.
Et on l'écoute, Juliette Armanet, Cavalier seul.
Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris, j'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes, je hais le mouvement qui déplace les lignes. Et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, consumeront leurs jours en d'austères études. Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants, de purs miroirs qui font toutes choses plus belles. Mes yeux, mes larges yeux, aux clartés éternelles.
Eh bien, je peux vous dire que dans ce studio, le poème dit par Guillaume Gallienne, notre camarade de France Inter et sociétaire de la Comédie Française, est connu par cœur, était dit. Yves Quéré, physicien, vous connaissez par cœur La beauté de Baudelaire.
J'ai appris ça quand j'étais enfant, presque. Et on se souvient des choses très anciennes comme ça, et La Fontaine aussi, et puis les choses très récentes, on les oublie.
Anne Kefelec, vous vouliez entendre ce poème, pourquoi ?
D'abord, j'aime beaucoup Guillaume Gallienne. Je trouve que ça peut pas faire de mal, son émission dans laquelle il lit des textes. Ça, c'est absolument merveilleux parce que, justement, la lecture orale des grands textes, il y a là-dedans une clé, je pense, pour approcher certains livres qui peuvent faire peur. Et je pense en particulier à La recherche du temps perdu de Proust, où il y a des lectures merveilleuses, en particulier d'André Dusselier, et où tout à coup, la difficulté du langage très sophistiqué, très alambiqué, s'éclaircit parce que l'acteur prend le temps musical, vraiment avec un phrasé, de dire les mots. Et peu à peu, on s'aperçoit que certaines langues apparemment complexes à l'écrit, à l'œil, parce qu'on les lit trop vite, en fin de compte, à partir du moment où elles trouvent leur rythme, leur vrai rythme, elles se simplifient, elles deviennent... À ce moment-là, pour moi, Proust devient oral, curieusement, et très naturel. Et donc, évidemment, ce poème, il lance des pistes très étonnantes. « Jamais je ne pleure, jamais je ne ris. » Là, je ne suis pas d'accord que la beauté ne devrait ni rire ni pleurer. Je ne suis pas Baudelaire, là, totalement sur cette matière, si je puis dire. Et justement, le mot de matière, et c'est le moment de lancer cette perche à mon ami Yves Quéré, qui dirait certainement que la matière n'est pas muette. Et lui qui a été, vous ne l'avez pas précisé, mais je tiens à le dire, il a été le plus proche collaborateur de Georges Charpak,
Nobel de physique,
qui avait fondé cette merveilleuse La main à la pâte.
Alors, La main à la pâte, créée dans les années 90 par Georges Charpak, oui. Et vous, entre autres, hein, vous étiez au moins
et
trois.
Pierre Lénane,
voilà.
Physicien.
Quel était le principe et l'objectif?
Alors, Georges Charpak était un migrant. Il était venu à l'âge de 7 ans à Paris, de sa Pologne natale, une famille très pauvre, et il a été émerveillé de l'école primaire dans laquelle il était arrivé dans le 19e arrondissement, et il disait toujours « j'ai cru entrer au paradis » en entrant à l'école. Prix Nobel en poche, il s'est dit « je veux payer ma dette, au fond, à l'école, au sens large du mot ».
Alors qu'il aurait pu aller faire des conférences dans le monde entier.
Absolument, il aurait pu faire tout ce qu'on peut faire quand on est prix Nobel, mais là, c'était pour lui la nécessité absolue. Et alors, pour lui, payer sa dette, eh bien, ça a consisté à, en effet, monter une rénovation de l'enseignement des sciences qui se faisait souvent, et d'ailleurs pas seulement en France, de façon très livresque. Vous voyez, on apprend par cœur des phrases. On parlait de la mémoire tout à l'heure de l'enfance. Je me rappelle encore très bien la phrase que j'apprenais par cœur parmi d'autres. L'eau bout à 100 degrés. Alors, qu'est-ce que c'est que bout, B-O-U-O, B-O-U-C? Qu'est-ce que c'est que ce degré? Mais on apprenait par cœur, on avait 10 sur 10 le lendemain. Évidemment, Georges s'est un peu élevé en disant il faut que les enfants apprennent la science. On peut le dire autant de bien d'autres matières en la faisant. Bien sûr, avec les mains, dans le cas de la science, les expériences, mais surtout avec l'esprit, avec l'intelligence. Une aventure passionnante.
Ça doit vous intéresser, ça, Catherine Dolto.
Oui,
vous travaillez
bien sûr,
tout ce qui est de l'ordre de l'affect, de la psychologie, pas entre les enfants et nous.
Oui, mais ça me touche parce que je crois que chez les êtres humains, ce qui est essentiel, c'est ce cycle permanent entre le cerveau qui pense, le cœur qui aime et la main qui agit. Et s'ils ne sont pas ensemble, ben, y a quelque chose qui n'advient pas chez l'être humain. Donc c'est essentiel.
Faire.
Faire, hein. Penser, aimer.
Dès l'enfance, vous dites ça aux parents?
Oui, oui, bien sûr. L'action, c'est très important. C'est pour ça que les jeux internet et tout ça, où l'enfant joue sans bouger, sont dommageables.
Qu'est-ce que vous conseillez comme jeu, alors?
N'importe quoi, où la main, les pieds, le mouvement, les sens sont en mouvement. C'est-à-dire tout ce qui est le trésor de l'être humain, d'avoir cette quintessence de pensée et de sens et de muscles. On n'éduque pas ça, on n'apprend pas aux gens à marcher, par exemple, alors que c'est une chose extraordinaire de savoir marcher.
Vous voyez régulièrement des enfants, Yves Quéré, vous allez dans les écoles, vous essayez de voir justement comment ils font, comment ils agissent avec la science. Est-ce que vous avez un suivi?
Bien sûr, et une des caractéristiques que nous suivons le plus, c'est la curiosité des enfants. Nous essayons de faire en sorte que la science leur apprenne la curiosité, parce que je crois qu'on doit apprendre la curiosité.
Oui, vous avez rencontré une fois une psychologue. Vous avez dit, monsieur Quéré, attention, oui. Un enfant n'est pas forcément curieux.
Oui, j'avais un peu sottement dit dans une table ronde, les enfants sont curieux, etc. Mais il y a beaucoup d'enfants qui prennent le monde comme il est. Et la curiosité, alors, vous aviez tout à fait raison, les sens, les yeux, bien sûr, regarder, voir, se poser des questions sur tout ce qui nous entoure, sur la nature, pourquoi une fleur pousse-t-elle comme ça, pourquoi une pierre tombe-t-elle si je la lâche, etc. Ça, c'est la curiosité. Pourquoi? Et puis alors, il y a le pourquoi auquel on sait assez bien répondre quand même. Pourquoi la pierre tombe, on peut lui répondre. Mais comment? Le comment est aussi assez facile. C'est souvent le pourquoi qui est très difficile. Pourquoi la pierre tombe-t-elle? On va lui expliquer, mais avec des mots très simples. Mais on ne sait pas très bien, en fait, pourquoi la pierre tombe. La science la plus compliquée a du mal à comprendre pourquoi une pierre tombe.
Nous voilà bien.
Oui. Alors, en fait, je suis haptothérapeute et je contacte énormément d'enfants avant la naissance. Et je peux vous dire que dans la vie fœtale, tous les humains sont curieux. Ils guettent tout ce qui fait signe, tout ce qui fait sens, ils repèrent, ils apprennent très vite à reconnaître si c'est un jeu ou pas. Et la curiosité fœtale est une chose qui me saisit chaque matin. Donc, s'il y a des enfants qui ne sont pas curieux, c'est que on leur a fait éteindre leur curiosité. Absolument. Et ça, c'est une maltraitance.
Sinon, apto, c'est toucher en grec, hein.
Apto, apteign, oui, ça vient du contact tactile. Alors, quand on pose les mains sur le ventre d'une femme enceinte, tout de suite, on sent que, immédiatement, l'enfant répond par un petit mouvement de sa colonne vertébrale, et après, il se met en mouvement. Et puis, s'il y a une main qui se pose d'un côté, il y va. Il reconnaît très vite les voix, et il s'amuse avec nous. Hein. Un enfant in utero, il propose des jeux. C'est formidable.
Yves Kéré.
Moi, je suis très heureux de vous entendre dire ça, c'est-à-dire de vous entendre dire que le jeune enfant, même peut-être le fœtus, et le très jeune enfant, le nouveau-né, est curieux. Ça, je le crois complètement, et je suis tellement heureuse de vous entendre le confirmer. Je parlais de l'enfant un petit peu plus âgé, il y a 3-4 ans, et on a peut-être tué en lui, c'est-à-dire qu'on n'a pas, il est resté curieux, et puis on ne lui répond pas.
Oui.
Donc, il tombe dans la contemplation du monde qui est comme il est. Et voilà, c'est tout.
Il se retire.
Et donc, Georges Charpak voulait absolument que l'enfant s'émerveille, parce que il y a le mot curieux. Et aussitôt après, le mot émerveillement.
Oh, voilà un mot qu'Anne Kefelec apprécie beaucoup, l'émerveillement. Vous m'avez envoyé certains des textes que vous prenez plaisir à écrire. Je peux me permettre de vous lire ?
Bien sûr. Hein ?
Notre émerveillement, notre bonheur devant le beau, car c'est de cela qu'il s'agit, tiennent aussi à ce que nous nous reconnaissons. Le beau nous dévoile à nous-mêmes. Non, il n'est pas absurde d'être là. L'absurde et le beau ne vont pas main dans la main. Sophocle n'a pas forcément raison de dire que le grand malheur est de naître. Pourquoi avez-vous ce désir de mettre des mots sur la beauté, sur l'émerveillement ?
Eh bien, il me semble que, en particulier à notre époque, on dirait que c'est un gros mot, ce mot de beauté. Et on passe très soigneusement à l'écart, et notamment alors chez les hommes politiques. Alors ça me sidère. Et c'est un mélange de sidération et de révolte aussi, et presque aussi de compassion. Je me dis, mais comment font-ils pour passer à côté de ça? Et si de temps en temps, un politique avait ne serait-ce que l'astuce d'employer le mot, même si en lui, ça serait réduit à un calcul électoral, il gagnerait des voix. Il se rend pas compte, s'il parlait plus de la beauté, il gagnerait beaucoup d'électeurs. Et rien que pour ça, ça vaudrait la peine. Enfin, j'ai probablement eu la chance à travers mes parents aussi, justement, d'être élevée par deux personnes qui s'émerveillaient facilement. Mon père était très émerveillé par la beauté
Henri
du
Kefelec.
Monde. Et c'est vrai que ça rejoint, je pense, un peu ce que viennent de dire Yves et Catherine à propos de la curiosité. C'est lié aussi à la découverte de la beauté, à la perception de la beauté, de l'émerveillement des enfants, c'est lié cette curiosité. Et en effet, c'est vrai que les adultes, parfois, peut-être maintenant ça change un peu, je ne sais pas, mais qu'il y a une forme de désenchantement dans le fait de ne pas répondre au questionnement des enfants quand ils disent c'est quoi ça. Et souvent, on entendait c'est du c'est quoi ça. Moi, je me souviens de cette réponse, c'est du c'est quoi ça, parce que bon, maintenant ça va bien, je peux pas répondre, donc fiche-moi la paix. Dans mon enfance, je dois dire, je n'ai pas vraiment entendu cela, mais c'est vrai que c'est lié, la curiosité, l'émerveillement, l'apprentissage aussi, l'émerveillement d'apprendre. Et donc là, on va certainement parler avec tous les deux de la transmission, de cette beauté de la transmission c'est un devoir, mais le devoir, c'est pas forcément triste, c'est une source de joie.
Yves Kéré, vous, la musique vous apporte ce que vous appelez dans votre livre Un coquillage au creux de l'oreille. Un salut par l'émotion.
Oui, Anne Kefelec a souvent dit que la beauté sauvait le monde, pouvait sauver le monde.
Enfin, ça, c'est Dostoïevski.
Mishkin l'avait dit peut-être avant elle, mais je crois très profondément, et elle le prouve quand elle va jouer dans les prisons, et que des prisonniers, des criminels peut-être, qui sont là en face d'elle et qui écoutent une nocturne de Chopin, ont les yeux pleins de larmes et lui disent « mais je ne savais pas que ça existait ». Comment ai-je pu vivre jusqu'à présent? Pour revenir au mot curiosité, c'est un mot magnifique. On ne pense pas assez au fait qu'il vient de cura, le soin, faire une cure, n'est-ce pas? La curiosité, c'est pas simplement « ah, je voudrais savoir s'il y a ». C'est le soin que je porte à ce qui m'entoure et qui me porte à me poser des questions sur lui, sur cet alentour.
Catherine Dolto?
Oui, je crois que l'être humain, il est fait beaucoup par ce qui l'entoure. Dans la vie prénatale, on est extraordinairement poreux, et après, ça continue. Mais je pense que comme la vie est douloureuse, on ratatine un peu les antennes quand on est petit. Parce que quand on est, on a des antennes immenses. Hein. Et effectivement, je ne vois pas comment le monde pourrait vivre sans beauté. Et la beauté, elle est partout, et elle est aussi dans les rapports humains.
Ça vient dans vos conversations avec les parents et les jeunes enfants, le mot de beauté, la notion de beauté?
Oui, bien sûr.
À quelle occasion?
Par exemple, souvent les parents ne voient pas ce que fait leur enfant, un enfant tout petit. Par exemple, l'autre jour, j'avais une petite fille qui avait 10 mois dans mon bureau et j'avais un jouet musical. Et puis après, elle a pris un petit marteau et elle a tapé sur tout ce qu'il y avait à sa portée et elle écoutait les sons. Et elle a tapé sur mon bureau qui était en bois, sur la moquette, etc. Et les parents n'avaient pas vu. Je lui ai dit, vous avez vu ce qu'elle est en train de faire? Elle écoute, hein, avec le même outil, comment ça résonne. C'est bouleversant. Et puis souvent, on voit un enfant qui s'arrête et qui est médusé par quelque chose qu'il voit ou qu'il entend. Ou quand il entend, moi, ma petite fille, elle adore sur un livre musical nul, Vivaldi. Bon. Et puis un jour, on lui a fait entendre en vrai avec un très bel orchestre. Et c'était splendide. Elle s'est arrêtée. Elle avait 2 ans. Elle a reconnu qu'elle connaissait cette musique-là. Et on l'a vu, mais se rouler par terre de joie de l'entendre bien jouer. C'est bouleversant, ça.
Ou ça s'appelait Anne Kefelec.
Ah oui, 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 évidemment. C'est cette immédiateté de la réponse enfantine qui s'abandonne, justement, et qui n'a pas de préjugés. Je me souviens d'une réflexion de mon petit garçon qui est devenu pianiste ultérieurement, mais qui avait quand même 5 ans, je dirais, donc c'était déjà un grand enfant.
On va dire son nom d'ailleurs.
Gaspard Dehaene. Nous avions ouvert la France Musique et nous avions un extrait de Passion de Jean-Sébastien Bach qui était diffusé à ce moment-là. Il s'est arrêté aussi saisi et il a dit « C'est qui a du chagrin ?» Et donc, il y avait déjà cette capacité à mettre un mot sur l'expression peut-être d'une forme d'émotion, d'un sentiment. Et ça émeut les parents à ce moment-là. Enfin, pardon de tomber dans ce que mon père condamnait à fond, c'est-à-dire l'auto-admiration familiale. Pardon, papa.
Vous savez que vous citez beaucoup votre père. On va interroger notre amie Catherine Dolto dans un instant sur cette citation assez fréquente d'Henri Kefelec. Mais je voudrais qu'on écoute Bach, justement, ça vous convient de vous écouter, entre autres. Vous n'êtes pas seul. C'est un concerto pour 4 pianos en la mineur avec Michel d'Albert, Jacques Gauthier, Pascal de Voyon, l'orchestre de chambre Jean-François Paillard. Il est cet allegro de ce concerto sur le disque. Bon souvenir.
Jean-Sébastien Bach, c'est évidemment la nourriture de base des musiciens. C'est un musicien qui ordonne notre chaos intérieur d'une façon tellement régénératrice et qui, même dans les tonalités mineures, qui sont en principe plutôt à coloration dramatique ou douloureuse, lui, il a une vitalité, une sève qui circule sans cesse. Et cet homme qui était par ailleurs une sorte de mathématicien de sonore extraordinaire, il y a toujours la sève de la vie qui circule.
Thank you.
Bach.
Merci Bach, dit Anne Kefelec. Pourquoi vous dites merci Bach?
Oh, parce que qu'est-ce qu'on lui doit à celui-là? Alors vraiment, il n'y a pas que ce rang qui dit qu'en effet, Dieu doit beaucoup à Bach, mais les hommes aussi lui doivent beaucoup, beaucoup, toute l'humanité. C'est Nietzsche, je crois, qui disait de Montaigne que de savoir qu'un homme comme ça avait existé, ça a augmenté le plaisir à être sur Terre. Et je trouve que Jean-Sébastien Bach, c'est la même chose. C'est un dispensateur
de bonheur. Yves Kéré, je sais que Bach fait partie de vos compositeurs favoris.
Évidemment, comment ne le serait-il pas? Pour moi, si on essaye de voir une courbe dans l'histoire de l'humanité qui commence au Sapiens, nous y sommes et puis ça continuera, peut-être pas très longtemps, on ne sait pas. Il me semble que Bach est au sommet parce qu'il a tout, il a une intelligence fabuleuse parce que ses constructions sont d'une... Vous avez parlé de mathématiques tout à l'heure, Anne, mais bien sûr, c'est une intelligence suprême, Bach. Et deuxièmement, le lyrisme, la beauté, c'est immense aussi. Et puis la spiritualité, c'est-à-dire la question essentielle, d'où sommes-nous, où allons-nous, Dieu. Je crois que personne d'autre, ni en science, ni en littérature, n'est allé aussi haut dans cette courbe que j'évoquais tout à l'heure.
Est-ce que vous le jouez au violoncelle?
Oui, alors là, je vais avouer quelque chose. J'aime tellement les suites pour violon que j'ai entendues dès l'âge, je pense, avant même ma naissance, par ma mère. Mmh. Et les suites pour violon sont tellement belles et, à mon avis, humbles que j'étale ici quelque chose d'horrible, je dirais, plus belle que celle de violoncelle. Je vais jouer au Danemark dans quelques semaines, le 4e Brandebourgeois. Oui, alors là, je serai heureux, mais...
Dans la famille Kéré, il y a des musiciens, hein?
Ah ben écoutez, oui, moi j'ai été mis à la musique de chambre tout de suite. Ma mère était une excellente violoniste, ma sœur était violoniste professionnelle, ma tante qui habitait chez nous était pianiste, donc nous avions tout de suite le trio, et puis quand mon frère est venu, il a fait de l'alto, nous avons très tôt eu le quatuor à cordes. J'ai commencé le violoncelle à 11 ans, j'avais fait un peu de violon avant, et tout de suite, trio de Haydn. Et tous les dimanches après-midi, tous, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, la musique de chambre. Obligatoire.
Vous avez fait
le
pareil.
Football après, on verra.
Ah oui, vous avez fait pareil avec vos enfants?
Un peu, oui, oui. J'ai une fille qui est une excellente pianiste. Et
Anne,
puis,
d'ailleurs, elle s'appelle Anne.
Oui, oui, hein. Anne aussi, oui. Un fils, David, qui est bon altiste, très bon altiste. Et puis Emmanuel, qui est très musicienne. Oui, oui.
Est-ce que vous êtes breton?
Un peu.
Un peu.
Quand le nom commence par Q-U-E, comme ah oui. Ce que j'ai en commun avec Anne Kefelec.
Yves Kéré, effectivement.
C'est évidemment breton.
Votre frère Anne Kefelec, votre frère Yann Kefelec, l'écrivain, a écrit un dictionnaire amoureux de la Bretagne.
Oui.
Elle vous manque, la Bretagne?
Alors oui, moi la Bretagne, enfin elle me manque. Mon père, quand on lui posait cette question, il disait qu'elle était aussi en lui. Il y a quelque chose qui me manque un peu, c'est la côte sauvage, c'est la mer, c'est les odeurs, le varech, le sel de la mer, enfin, et la sauvagerie de ces côtes. Ce mélange en Bretagne de sauvagerie et de douceur aussi que je retrouve particulièrement à Ouessant, où il y a, là ça doit être le 15 mois sur la dune, des minuscules petite fleur qui est close, et ça m'habite évidemment, c'est lié à mes sensations d'enfant par rapport à la mer.
On va écouter un groupe de modern soul originaire de Londres, Jungle. Ils chantent Casio, je vous conseille d'aller voir leur clip, vous verrez des danseurs exceptionnels.
Casio, playing on my heart just like a Casio. It apart so you can let it go. Oh, wait another year, that's not original. I'll send a call, alright, let's go now. Back to my vehicle. They're just gonna tell you that I wasn't real. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. Just like a Casio, drinking it up so you can let it go. We're nerdy, that's not original. Cynical, alright, let's go now.
Le Grand Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
Pourquoi le mot transmission est-il si important dans votre vie, Anne Kefelec?
Parce que j'ai moi-même énormément reçu. Je n'arrête pas d'inventorier, si je puis ainsi dire, ce qui m'a été donné, ce qui m'est toujours donné. Donc, d'une certaine façon, je me sens en dette, enfin, incontestablement. Ce n'est pas forcément une culpabilité. C'est une dette heureuse, mais qui, à mon tour, me fait penser que justement, il y a aussi cette joie à donner, et peut-être de faire d'autres endettés d'une certaine façon. À partir du moment où on voit qu'on a développé en soi son talent, qu'on a acquis une autre capacité, c'est une source de joie. Et donc, dans cette transmission, il y a ça, cette forme de cette stimulation du potentiel qui est dans chaque être humain et éveillé le plus possible.
Alors, essayons de trouver des situations où vous transmettez. Quand vous êtes à Nantes, au Folle Journée, elle se manifeste comment, cette transmission?
Justement, c'est bien de parler de cette manifestation qui fait passer un courant extraordinaire dans toute la région, courant transmetteur, n'est-ce pas? Je ne vais pas trop m'aventurer dans les métaphores physiques devant M. Quéret. Pendant pratiquement une dizaine de jours, toute la région, pas seulement Nantes, la région nantaise, une douzaine de villes autour de Nantes, sont irriguées par la musique à travers des concerts dont le concept est d'ailleurs fort intelligemment pensé par René Martin, le fondateur de la Folle Journée. C'est-à-dire concerts courts, 40-45 minutes maximum, très variés, à des prix tout à fait plus que modestes. Et les auditeurs qui très souvent ne mettent pas les pieds dans les salles de concert traditionnelles, il y a beaucoup d'auditeurs ingénus à la Folle Journée. Peu à peu, ils s'aperçoivent que, en effet, ils se sentent bien là, ils composent leur parcours. Alors, il y a des mélanges de genres, puisqu'il y a aussi bien des récitals de piano que concerts quatuors, concertos, mélodies. Et il y a aussi des masterclass, il y a des groupes d'amateurs aussi qui se produisent. Donc, il y a cette transmission qui s'adresse à toutes les classes sociales, parce qu'on voit bien, c'est très mélangé. Il n'y a pas d'entre-soi, si vous voulez. Les portes sont grandes ouvertes. Et on voit bien à quel point, en effet, après un premier temps, on a osé y aller. On s'aperçoit que chacun est concerné de façon très naturelle. Et vous avez évoqué les prisons dans lesquelles je vais jouer de temps en temps. Je veux juste vous citer cette parole d'un détenu après un concert qui m'avait dit: vous vous rendez compte, si j'étais pas venu en prison, je n'aurais pas connu la musique. Comme il était passé à côté d'une catastrophe. Et donc, ceux qui ont la chance de pouvoir, à travers la manifestation de la Folle Journée de Nantes, avoir accès à la musique classique, tout à coup, il y a une clé pour eux-mêmes. Ils découvrent en eux des zones qu'ils ne connaissaient pas.
Je vais poser la question également à Catherine Dolto, parce que la transmission, c'est aussi une grande partie de votre vie, ne serait-ce que celle de votre mère aux auditeurs et aux lecteurs. Vous êtes exécuteur testamentaire de l'œuvre de Françoise Dolto, donc vous réfléchissez à ça toute la journée.
Mais oui, parce que d'abord, quand on travaille avec des enfants, c'est tout le temps ça. Moi, je crois que la transmission, c'est la seule chose qui donne vraiment sens à la vie. Parce que dans la transmission, il y a de l'amour. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas transmettre. Et je crois que, dans le fond, si on pouvait chacun mourir en disant « j'ai résolu mon équation de transmission », on serait en paix. Parce que chaque enfant qui arrive au monde, il reçoit potentiellement tout le savoir, toute la science, toute la beauté, toute la connaissance qui a été produite par l'espèce humaine avant lui. S'il a de la chance, il reçoit aussi de l'amour. Et de toute façon, il reçoit énormément de sa planète. Donc si chacun ne se pose pas un moment pour dire « voilà, qu'est-ce que j'ai reçu et comment je le transforme et comment je le rends ?» à mon espèce, à ma planète, ben c'est grave. Et donc ça, il faut l'apprendre aux enfants très tôt.
Dans votre métier d'aptothérapeute, il y a cette transmission, il y a l'idée d'une transmission.
Oui, et puis alors il y a une chose qui m'amuse beaucoup, c'est que dans le fond, l'enfant, il est porteur d'un patrimoine génétique qui vient des ancêtres. Et quand il répond à ses parents, déjà in utero, il les provoque. Et dans le fond, à travers lui, les ancêtres provoquent les parents. On voit toujours la transmission des grands vers les petits. Mais c'est pas vrai, les petits aussi ils transmettent, ne serait-ce qu'à travers ça. Ils expriment un patrimoine génétique qui est loin, potentiellement, de ce que sont leurs parents. Et pourtant, est à eux.
Anne Kefelec?
En écoutant Catherine, je retrouve évidemment très 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 proche mes propres souvenirs de mère. Quand à un moment de la naissance d'un enfant, que tout à coup il y a quelqu'un, il y a une personne qui est, elle parlait du patrimoine génétique, et en effet, cet être totalement neuf, qui est en effet déjà porteur de presque d'une sorte d'histoire, il est dépositaire de caractéristiques qu'on va peu à peu découvrir, qu'on va peut-être aussi aider à développer. Et il y a ce mystère poignant au sens où ça vous empoigne, du plus proche et du plus lointain, d'une certaine façon. Et le but de l'éducation va être de le rendre le plus autonome possible ensuite, donc une forme de libération aussi.
On vous écoute dans Schubert, vous voulez bien qu'on vous écoute au piano ?
Écoutez, je ne me serais peut-être pas choisie, mais enfin...
J'aime bien la fantaisie pour piano à quatre mains en fa mineur.
Ah oui, c'est magnifique.
Catherine Dolto aussi ?
J'adore.
Yves Quéré, vous n'êtes pas contre ?
Non, pas vraiment.
Voilà Schubert. Vous vouliez dire quelque chose, Yves Quéret?
Non, je me demandais avec qui Anne jouait la fantaisie.
Il s'agit de quatre mains, oui, c'est avec mon amie anglaise Imogen Cooper.
Vous avez écouté Schubert avec plaisir, Catherine Dolto, mais je crois que si j'avais diffusé du Mozart par Anne Kefelec, vous auriez été heureuse aussi?
Oui, parce que là, il y a un disque d'Anne qui est mon disque de chevet sur du Mozart tardif tellement bouleversant et Trazom, moi je l'appelle Trazom, quand même il aide à vivre tous les jours.
Ah oui, je voulais que Catherine en dise plus sur son rapport intime avec l'homme de ma vie.
On partage, on a le même.
Ça vous a uni dès le départ?
Oh, je sais pas. Non, c'est comme avec Macha, c'est des rencontres d'âme à âme.
Macha Makayev, voilà.
Oui. Oui, toutes les trois.
Oui. Oui, vous êtes amis, vous étiez venus dans son grand atelier.
Oui, bien sûr.
Alors Mozart, racontez-nous des choses intimes entre lui et vous.
Mais pas plus que tout le monde, mais simplement que cet homme, il a le don de me rendre... de me consoler d'être un humain, parce que être humain, c'est déchirant. Et Mozart, il assume tellement cette déchirure avec la joie en même temps que ça donne le courage. Comme dit, elle écrit très bien, Anne, en fait, c'est un grand écrivain, et sur Mozart, elle dit ça, elle dit que appartenir à la même espèce que cet homme-là, ça console.
Et j'aime beaucoup aussi ce que dit Busoni, ce grand pianiste italien qui a transcrit beaucoup Jean-Sébastien Bach. Il dit de Mozart, il n'est pas pur par innocence. Et je trouve en effet ça très profond, oui. Car en effet, la musique limpide de Mozart, cette espèce de cristal qui fait que il est si difficile à jouer d'ailleurs, parce que tout se voit, on est très très exposé quand on le joue. Il y a une profondeur dans cette lumière et une connaissance profonde de l'humain, de la nature humaine et de ce que c'est d'être sur cette terre. Et il connaît tout de l'humain, comme évidemment les grands génies en général, rien d'humain de leur est étranger, mais comme il le donne avec une telle lumière, c'est vrai qu'il est consolateur.
Catherine
aussi.
Dolto.
Oui, quand on est éprouvé par la vilenie humaine qu'on rencontre quotidiennement, on se dit, mais lui, il a traversé ça et il a quand même continué à produire cette beauté, donc tiens-toi debout, ma petite.
On a parlé de beauté, on a parlé de transmission, on a parlé d'émerveillement, vous venez de parler d'art consolateur en citant Mozart, Catherine Dolto. Je voudrais qu'on se quitte avec des mots d'un poète toujours vivant, bien vivant, et qui écrit régulièrement, c'est Christian Bobin. Je ne sais pas s'il fait partie des écrivains que vous lisez.
Si, bien sûr. D'ailleurs, il se trouve que dans le prochain cahier de Lerne, il m'avait demandé d'écrire un texte.
Eh bien, écoutez-le.
Donc, je lui ai écrit une lettre.
C'était sur France Inter en 2012.
Il faut revenir toujours, ramener toujours la vie à sa base, à ses nécessités premières, de faim, de soif et de poésie. Il est possible que le monde moderne soit comme une sorte d'entreprise anonyme de destruction de nos forces vitales, sous prétexte de les exalter, de destruction de la capacité qu'on a d'être attentif, d'être rêveur, d'être lent, d'être amoureux, de faire des gestes qu'on ne comprend pas, gratuits. Et je pense que, par exemple, les livres, l'écriture, la beauté, la poésie, certaines musiques peuvent nous ramener à nous-mêmes, nous redonnent des forces pour lutter contre cette sorte d'éparpillement où nous nous trouvons avec une âme déchiquetée à tous les bouts de la planète, lancée aux chiens comme ça. Et je pense que la méditation, la beauté, la simplicité, le resserrement sur quelques phrases, sur un visage, sur la vie ordinaire, tout ça, c'est quelque chose qui nous donne des forces pour résister. C'est le grand mot, c'est résister.
Comment réagissez-vous aux propos lumineux de Christian Bobin, Anne Kefelec?
Oui, résister et faire confiance aussi. Je pense qu'il y a les deux. De par mon éducation, je crois que, étant donné ce qu'on m'a mis dans mon bagage, que je le veuille ou non, j'ai de quoi résister, mais ça dépasse même l'aspect volontaire, si vous voulez. J'ai des contrepoids parce que j'ai lu tel et tel livre, parce que j'ai été nourrie par tel et tel ou texte ou musique ou échange, rencontre comme celle d'aujourd'hui. D'ailleurs, je remercie infiniment mes amis qui sont venus pour échanger tous ensemble Donc, dans la notion de résistance, c'est pas que en serrant les dents. Disons que ça peut être aussi, on peut aussi peut-être résister par l'émerveillement.
Vous entendiez ce que disait Christian Bobin, Catherine Dolto, résister, l'importance de l'art comme boire et manger. J'aimais bien cette idée organique.
C'est magnifique.
Hein,
c'est
presque du besoin d'art.
C'est ça, c'est se tenir debout malgré la déchirure qui nous reprend à chaque instant devant le spectacle du monde.
Oui, et le monde, en particulier le monde actuel. Ça, c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, il y a des agressions non-stop et puis des manipulations terribles à travers, en particulier effectivement, Internet, où le meilleur et le pire se conjuguent.
Vos copains followers.
Oui, mais pas seulement quand il évoque l'éparpillement, la dispersion. Et déjà, Pascal parlait du divertissement. Donc, il n'y a rien de nouveau, mais à part que là, il y a une telle ampleur de cette action, des transformations des relations aussi entre les êtres à travers Internet, à travers les téléphones portables, à travers les écrans. Là, il y a quelque chose en effet à sauvegarder, incontestablement, et pour le coup, il faut résister.
Alors. Yves Quéré, je vous souhaite de continuer d'être heureux à jouer du violoncelle, à transmettre auprès des enfants votre savoir et votre Merci. Appétit de vivre. Un coquillage au creux de l'oreille, Yves Quéré, science, éducation et autres rivages, c'est le sous-titre et c'est paru chez Odile Jacob. Et puis, on peut lire beaucoup de livres avec ses enfants, ou tout seul d'ailleurs, de Catherine Dolto. Je citerai par exemple Harcelé, harceleur, les mots et les images qui font peur, ou bien les mots de Françoise Dolto. Merci d'être revenue
Merci.
Dans le grand atelier, Catherine Dolto. Anne Kefelec, on va se quitter après ces deux heures de votre grand atelier. Vous allez partir maintenant dans quelques minutes. Si vous deviez jouer tout de suite quelque chose au piano en arrivant chez vous, qu'est-ce que vous pourriez jouer?
Ah, peut-être en effet une sonate de Mozart. Oui, j'y retourne très régulièrement. C'est mon porte-bonheur.